Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous rencontrons une fois encore aujourd'hui le docteur Béatrice Abril, qui, je vous le rappelle, est spécialiste du sommeil, chef de service de l'unité des troubles du sommeil et acupuncture au CHU de Nîmes, service qui fait partie du pôle AMI, A-M-I-E, activité médicale guidée par imagerie exploration fonctionnelle. Le docteur Abril est neurologue et s'est spécialisé dans le sommeil. Bonjour à vous, docteur Abril, et merci d'être une nouvelle fois avec nous.
Bonjour.
Les maladies du sommeil regroupent un large éventail de conditions qui perturbent la qualité, la quantité et le timing, le calendrier du sommeil. Elles peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé physique, mentale et cognitive. Dans une première émission, nous l'avons déjà évoqué. Je vous propose d'en aborder les principales maladies. Nous allons parler de 6 maladies du trouble du sommeil. L'insomnie, bon, on l'a déjà évoqué, mais on y va revenir. L'hypersomnie, les troubles respiratoires du sommeil, les troubles du rythme circadien, les parasomnies, les troubles liés au mouvement. En premier lieu, l'insomnie que nous avons évoquée lors de notre précédente émission, pouvez-vous nous rappeler, nous en dire un peu plus?
Alors, l'insomnie, c'est une maladie extrêmement fréquente et le patient se plaint de difficultés à s'endormir, de réveil fréquent ou de réveil trop tôt. Dans la nuit, avec une impossibilité de se rendormir et des conséquences, c'est-à-dire une fatigue, une somnolence la journée, des troubles de l'humeur, qui survient 3 fois par semaine, plus de 3 mois.
D'accord. Donc, il y a une définition qui est faite par un consensus international.
Tout à fait.
Pour dire qu'on fait une insomnie, il faut rentrer dans ce cadre.
Tout à fait. Et donc, forcément, on a tous mal dormi une nuit, 2 nuits, 3 nuits, quand ça se répète. Et effectivement, il y a un mal-être qui induit plein de conséquences au travail personnel et à long terme, à plus long terme, des maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé.
Mmh. Est-ce que les enfants, les nourrissons, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes, et les personnes plus adultes, disons, pour ne pas dire les vieux, ont des insomnies différentes.
Tout à fait. Par exemple, on peut prendre l'exemple de l'adolescent qui est typique. Les adolescents ont plus ce qu'on appelle un retard de phase. C'est plus un trouble du rythme circadien, mais c'est une insomnie d'endormissement. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de changements hormonaux et l'horloge biologique, elle est un peu décalée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le week-end, ils se lèvent trop tard.
Oui.
Donc, le dimanche soir, impossible de s'endormir.
Oui.
Et lundi, ainsi de suite. Donc, ils sont un petit peu décalés. Et par exemple, les personnes âgées sont plus une insomnie par réveil précoce.
Oui.
Ils s'endorment plus tôt, souvent sur le canapé. Donc, il y a des insomnies très différentes. Et l'insomnie, la personne, par exemple, qui est un peu déprimée, elle peut rester au lit longtemps, mais pas pour autant dormir.
C'est
ce qu'on appelle la clinophilie. Donc, on traîne un petit peu au lit, on n'a pas l'énergie, la force de se lever. Mais on ne dort pas. Donc, toutes les insomnies sont différentes parce que ça fait partie de la vie. Il faut tenir en compte le métier, la personnalité de la personne. Il y a parfois plus anxieux, parfois plus rigide. Et donc, chacun a son contexte et chaque insomnie est quand même unique, mais il y a des caractéristiques en fonction des...
Donc, vous proposez une prise en charge individuelle,
tout
personnalisée.
Hein,
c'est ce
fait.
Qui est intéressant dans votre unité de sommeil. Hein.
Tout à fait.
Et, bon. Et alors, une question qui me vient en parlant des adolescents, c'est évidemment les écrans.
Ça participe.
Voilà. Alors, dans quelle mesure ça participe? Il y a 2 sortes d'écrans. Enfin, il y a 3 sortes d'écrans. Vous avez l'ordinateur, mais bien souvent, l'ordinateur, on est assis. Alors déjà, c'est pas fait pour dormir.
Ouais.
Et puis, il y a le flash lumineux, quoi, la stimulation lumineuse.
Donc,
il y a les tablettes, excusez-moi. Et puis, il y a les smartphones, les téléphones. Donc, quel impact ça a sur l'insomnie et...
En fait, les ados, ils sont déjà décalés physiologiquement. Ils ont une période décalée.
Ça, c'est normal.
C'est normal. C'est physiologique, une tendance à se coucher tard. Et en plus, ces écrans avec cette célèbre lumière bleue,
voilà.
La lumière bleue, elle mime le soleil.
Oui.
Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque la mélatonine.
Oui.
Donc, la mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement. Et donc, elle la décale.
Alors, parlez-nous un peu de la mélatonine.
Donc, la mélatonine, elle est produite par le cerveau.
Beaucoup de traitements sur mélatonine. Maintenant, on ne vit que par la mélatonine.
Et tout à fait.
On ne dort que par la mélatonine.
Donc, on s'endort quand la mélatonine augmente.
Oui.
D'accord. Il n'y a pas de production de mélatonine la journée. Et on s'endort quand elle augmente. Et cette mélatonine, elle est bloquée par la lumière.
D'accord.
Donc, si vous allez vous coucher, cette mélatonine, elle est un petit peu décalée chez les adolescents. Et en plus, on met un écran bleu, on la décale.
D'accord.
Donc, ils n'ont pas le déclencheur pour s'endormir. Donc, normalement, on dit qu'il n'y a pas de cran au moins 2 heures avant.
2 heures avant. Ça, c'est impossible parce que tout le monde regarde les écrans avant de dormir.
Et bon, il y a cet effet de l'écran, mais il y a l'effet de l'excitation.
Bien
donc,
sûr.
On joue, il y a les réseaux, donc on envoie des petits messages, des petits textos. Il y avait une étude faite par l'Institut national de sommeil et vigilance il y a 2 ou 3 ans. Il disait le nombre de textos de notification qu'ils reçoivent pendant la nuit. Qui réveille
oui,
les ados à 3 heures du matin.
Il faut enlever le déclencheur de texto, le petit ting.
Oui, hein, effectivement. En fait, idéalement, mais je sais que c'est
mettre
difficile.
Sous un mode avion.
C'est le laisser dehors de la chambre.
Oui,
idéalement.
Vrai, oui.
Après.
Ah non, mais on dort avec son téléphone. Mais
ouais.
Le téléphone est devenu.
Idéalement, il
le
faudrait. Il vaut mieux regarder un film à la télé. Au salon,
pourquoi
en famille, parce qu'il n'y a pas cette lumière bleue.
La télé n'a pas cette lumière bleue.
Ouais. Donc, il vaut mieux, là, assis, on regarde et après, aller se
discuter,
coucher.
On peut échanger sur le
voilà,
film.
Voilà, et on choisit le film.
Voilà.
Il n'y a pas que...
On peut discuter.
Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'on choisit? Que regarder dans son lit.
Alors, vous avez... Bon, on a parlé de la mélatonine. J'ai une question qui me vient comme ça. Il y a énormément de produits pharmaceutiques à l'emporte-pièce, hein, ou autre, on pense sur la mélatonine. Est-ce que ce sont des bons traitements?
C'est quand il y a la bonne indication, oui.
Oui,
par
d'accord.
exemple, pour...
C'est l'indication de médecin. C'est,
oui.
c'est un spécialiste qui doit dire, vous prenez la mélatonine. C'est
oui,
pas,
et on peut faire une préparation pharmaceutique,
voilà.
Et on peut le doser un petit peu plus, et il faut le prendre à une heure déterminée.
Voilà, c'est ça.
Et on ne peut pas prendre la mélatonine comme ça. Effectivement, il y a eu un boom.
C'est un produit de supermarché, maintenant. C'est-à-dire qu'on
ouais.
prend... C'est pas mal, le produit de supermarché. Mais c'est le
oui.
comportement que je veux dire. C'est-à-dire qu'avant, on allait chez le médecin pour lui demander, il y avait une prescription.
Ouais.
Maintenant, on y va de moins en moins pour X raisons. On va chez le pharmacien. Et puis, maintenant, on prend la mélatonine sur Internet et on se soigne
oui.
tout seul.
Il y a des LP, des libérations
voilà.
prolongées, immédiates. L'idéal, c'est consulter son médecin pour qu'il vous conseille si
voilà.
nécessaire. Mais en même temps, je réinsiste, si on est dans une insomnie, la mélatonine toute seule ne fera pas grand-chose
oui.
si vous levez à midi parce que vous traînez
ça,
au lit. Donc, c'est pas...
C'est important ce qu'on
ouais.
dit, parce que la prise en charge de l'insomnie est plurifactorielle
ouais,
et pas uniquement un bonbon.
Mais... Oui,
ouais,
tout
ouais.
à fait.
Alors, maintenant, est-ce qu'on peut évoquer les hypersomnies? Après l'insomnie, les hypersomnies.
Donc, les hypersomnies, c'est lorsqu'on dort de trop. Et c'est une maladie rare, ce sont des maladies rares, mais tout autant handicapantes. Donc, vous avez entendu parler de la narcolepsie, c'est des personnes qui s'endorment un peu partout, qui font des siestes réparatrices, c'est très handicapant. Mais il y a aussi une maladie qui s'appelle l'hypersomnie idiopathique, c'est quand on dort trop et ce n'est pas réparateur. Donc, on a toujours envie de dormir. Et on fait des siestes de 3-4 heures et on met 5-6 réveils le matin.
Idiopathique, ça veut dire qu'on n'a pas d'explication.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, on doit se mettre beaucoup de réveils pour arriver à se réveiller. Donc, c'est facile quand on habite chez ses parents, mais quand on est étudiant, qu'on habite dans un studio, ça devient problématique parce qu'on n'arrive pas à se lever.
Mm-hmm.
Donc, et ça se soigne pas à la cause puisqu'on ne la connaît pas, mais on va donner des médicaments éveillants qui vont permettre d'avoir
alors,
une vie acceptable.
Quelques médicaments éveillants.
Donc, ça peut être la célèbre Ritaline qu'on donne pour le TDAH.
Ça se donne beaucoup.
Oui, le méthylphénidate, le Modiodal, le Modafinil,
mm-hmm.
c'est le traitement pour la narcolepsie. Maintenant, il y a d'autres médicaments comme le Sunosi ou le Pitolisant. Ce sont d'autres médicaments éveillants.
Alors, ces médicaments sont prescrits par le médecin généraliste ou alors par les médecins
hospitaliers? Par les médecins de
sommeil. Ça, il faut le dire parce
ouais.
que les gens vont aller voir leur médecin généraliste. Je veux de la Ritaline. Non, je ne peux pas prescrire. Ce sont des prescriptions spécifiques.
Oui,
hein,
et c'est des médicaments d'exception. Hein, donc,
ouais,
ces médications...
Hein, parce que la Ritaline, on ne la donne pas comme ça. Quoi, hein.
Oui, tout à fait. Et après, il faut faire des examen pour prouver
voilà,
qu'il
il faut
y a cette
d'abord le diagnostic.
Oui,
hein.
voilà, le diagnostic et après traiter. Et après, ce n'est pas des médicaments anodins. C'est mmh. important quand une maladie de se traiter, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut abuser, qu'il faut se dire, si je prends ces médicaments, je vais moins dormir.
Faut...
Donc, non.
L'automédication, est quand même... on l'a traité déjà, l'automédication. Alors, l'automédication, quand on a quelque chose de simple, c'est pas mal, parce que ce n'est pas la peine de... Mais ouais. l'automédication, quand on a des maladies qui sont caractéristiques, il faut quand même être prudent. C'est pas que, oh. Maintenant, il est interdit d'interdire, comme un, comme un 68. Mais l'insomnie, c'est une maladie, donc il faut faire le diagnostic. Il y a un cadre qui, qui fait le diagnostic. On n'est pas insomniaque parce qu'on ne dort pas trois nuits. On a une hypersomnie, il y a donc un diagnostic. Et une fois qu'on a le diagnostic, il y a une prise en charge. Donc on a dit qu'ils sont multifactoriels avec des médicaments spécifiques. Alors, maintenant, j'aimerais aborder les troubles respiratoires du sommeil, c'est-à-dire les problèmes de respiration pendant les phases de sommeil.
Donc, les troubles respiratoires du sommeil, c'est un ensemble de maladies qui sont constituées par des personnes qui font des pauses respiratoires. Il faut savoir qu'on fait tous des pauses respiratoires. On fait jusqu'à 5 fois par heure des pauses respiratoires, c'est normal. La respiration, elle n'est pas régulée de la même façon la journée que la nuit.
Quand on dort, c'est-à-dire qu'on fait des pauses respiratoires pendant le sommeil.
Enfin, oui, tout le monde.
On fait des pauses respiratoires dans la journée parce que des fois, on a le couple soufflé parce qu'on écoute une émission qui n'est pas intéressante. Parce qu'on parle, donc pendant qu'on parle, eh bien, on ne respire pas. Donc, donc il y a des pauses respiratoires de la vie. Mais dans le sommeil, c'est-à-dire alors qu'on croit qu'on est calme, tout ça, il y a des pauses physiologiques jusqu'à 5, vous m'avez dit.
Par heure.
Par heure, oui, donc c'est énorme.
Donc 5 par heure. Et donc parfois, on en fait de trop. Pourquoi ? Parce que le pharynx, qui est le tuyau au niveau de la gorge, se ferme. Donc se bloque. Et donc, on en fait un peu trop. Donc on s'arrête de respirer beaucoup de fois dans la nuit. Bah, forcément, le sommeil n'est pas réparateur. Donc forcément, on ne fait pas de sommeil profond. Donc en somnolant la journée, on a des conséquences. Mais ça, il faut le comptabiliser. Donc, il faut le comptabiliser et ça se comptabilise par heure de sommeil. Donc, on va vous enregistrer la nuit, on va regarder comment vous dormez, on va comptabiliser les pauses de plus de 10 secondes. Pour dire qu'une pause est pathologique, donc elle n'est pas normale, il faut qu'elle soit d'une durée de plus de 10 secondes.
Voilà, c'est ce que nos auditeurs ont subi, pour certains, avec cet enregistrement de sommeil qui est extrêmement agréable à vivre, dans un lit avec un appareil qui vous réveille, qui vous prend l'attention, qui vous... voilà. Donc il faut explorer avant de traiter.
Tout à fait. Donc, on va explorer et on a un premier cas de figure. Par exemple, on fait plus de 30 apnées par heure. Donc là, c'est sévère.
C'est énorme, oui.
Là, c'est sévère. Donc là, il va falloir traiter. Donc, ça peut être une machine qui vous envoie de l'air. C'est très mécanique. On envoie de l'air et ça ouvre le pharynx. Mmh. Donc, si vous mettez l'appareil, vous ne faites pas d'apnée. Si vous ne la mettez pas, vous en refaites.
D'accord.
D'accord.
Et... Alors les gens revivent avec ça. Hein. Ils sont sous oxygène, comme il dit. J'ai ma machine à oxygène.
Oui, ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'air.
C'est de l'air. Après, ils ont leur machine.
Oui, comme... et donc ça marche très bien dans la majorité de cas. Après, on a l'état intermédiaire lorsqu'on fait entre 15 et 30 apnées de sommeil. Là, on dit que c'est des apnées modérées. Et donc là, il faut recevoir le patient en consultation et discuter avec lui. Est-ce qu'il y a beaucoup de symptômes ? On est très somnolent, donc on peut traiter avec la machine. Est-ce que finalement, il n'y a pas de symptômes, mais il y a des gros amygdales ? Donc peut-être il faut un avis ORL pour voir si ce n'est pas les amygdales.
Le pharynx, pour préciser, le pharynx, c'est le fond de votre gorge, hein, c'est où la langue émerge, si vous voulez. Ça, c'est le pharynx. Le larynx, c'est un peu plus bas, hein, c'est à la trachée, c'est ce qui permet à l'air de rentrer et aussi de se fermer pour pas que le bol alimentaire, c'est-à-dire ce qu'on mange, passe dans les poumons. C'est pour remettre à l'anatomie. Donc là, à ce moment-là, vous nous dites...
Donc il y a d'autres solutions parce qu'on fait des apnées aussi parce qu'on est en surpoids parfois. Donc quand on est en modéré, il faut discuter. Par exemple, c'est un monsieur qui est chauffeur poids lourd et qui s'endort sur la route, on va avoir envie de lui mettre un appareil. Par contre, si c'est un patient qui ne travaille pas et qui entame un régime et qui va perdre 5 kilos, peut-être on peut patienter. Donc,
Et pour les retraités ?
C'est cas par cas. Les retraités, il faut déjà pouvoir les recevoir en consultation parce qu'ils sont
très
occupés.
Ils sont très actifs,
Ils sont très occupés. Donc, pareil, je reviens à la médecine personnalisée. D'accord, il faut voir le patient faut voir les maladies qu'il a, il faut voir les médicaments qu'il a et voir avec lui qu'est-ce qui peut marcher le mieux.
Là, vous travaillez avec les pneumologues.
On travaille avec les pneumologues, avec les ORL, avec les kinés maxillofaciales, avec les odontologues. On travaille avec un panel de...
Les odontologues ?
Oui, parce que parfois... C'est parce qu'on a une
machine... les spécialistes de la commande...
Des dents.
Des dents. Hein,
des dents. Et parfois, ça arrive qu'on ait la mâchoire un petit peu vers l'arrière, donc il n'y en ait pas d'espace. Et ça soit ça le problème qui provoque des apnées. Donc, on peut même consulter un chir maxillofacial pour avancer.
Ouais. Les cardiologues, vous m'avez dit.
Et les cardiologues aussi.
Alors, comme vous parlez des dents, le bruxisme, en deux minutes. Alors.
Les bruxismes,
deux secondes.
C'est on grince des dents. Donc, malheureusement, il n'y a pas trop de solutions, mais il faut déjà mettre une gouttière, pour protéger. Mais parfois, la toxine botulique, ça marche. Donc, on fait la toxine, ce qui permet de détendre le muscle et on brusque moins.
Le CHU est un référent. Pour la toxine botulique, il faut des référents. Donc, le CHU est un référent.
Oui, il y a le docteur Castelnovo Giovanni, oui, neuro, qui là est un peu parti, mais il reste pour faire les toxines une fois tous les 15 jours ou tous les mois.
Ouais. Eh bien, je vous remercie. Je vous propose à présent, sans que notre sommeil soit troublé, une petite pause musicale avec une musique pour dormir bien, une musique pour s'immerger dans un sommeil profond. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le docteur Béatrice Abril, qui est spécialiste du sommeil, chef de service de l'unité des troubles du sommeil et acupuncture au CHU de Nîmes. Elle nous parle des maladies et troubles du sommeil. Alors, à présent, j'aimerais qu'on aborde les troubles du rythme circadien en précisant que circadien, c'est-à-dire le rythme de la journée. Les troubles du sommeil dus au rythme de la journée.
Les troubles du rythme circadien, c'est quand il y a un décalage avec sa propre horloge biologique. Donc, on a tous une horloge biologique qui guide notre corps sur 24 heures. Et qui nous dit, par exemple, il y a des personnes qui sont du soir et des personnes qui sont du matin, des personnes qui sont neutres. Et comment on sait si on est du soir ou du matin ? C'est pendant les vacances. Donc, quand il n'y a plus de contraintes, si les personnes du soir, elles se décalent, elles ont tendance à se coucher à une heure du matin.
Ça c'est important. Dire qu'il faut savoir si on est du matin ou du soir. Et bien, pendant les vacances, au bout de quelques jours, quand on reprend un cycle normal qui n'est pas rythmé par le réveil ou par les obligations, on peut savoir si on est plutôt du soir, c'est-à-dire qu'on va se coucher tard et avoir des activités, ou plutôt du matin, c'est-à-dire qu'on va se réveiller tôt et avoir des activités.
Voilà. Donc, ça, globalement, on le sait. On est du soir au matin. Et donc, quand il y a un conflit entre ce qu'on appelle son chronotype, donc si on est du soir, du matin ou neutre, et l'activité de tous les jours, le travail, les enfants, les emmener, ben là, il y a un conflit et ça ne marche plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trouble du rythme circadien. Donc c'est par exemple le couche-tard qui doit se lever à 6 heures du matin.
D'accord.
Il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à se lever tôt.
Il dort pas assez.
Ou le lève-tôt qui va se lever à 4 heures du matin et forcément à midi, il est KO.
Oui.
Donc on va travailler et pour travailler sur ça, et on va travailler beaucoup avec la mélatonine et travailler avec un agenda de sommeil. Donc on va proposer aux patients de nous faire un agenda de sommeil sur 3 semaines avec l'heure du coucher, l'heure d'endormissement, l'heure du réveil, l'heure du lever, si on fait de sieste ou pas, pour étudier non seulement le nombre d'heures de sommeil, mais pour essayer de proposer des horaires, des solutions qui soient plus faciles pour gérer leur quotidien.
D'accord, donc on fait un diagnostic de comportement pour faire un traitement de comportement.
Ouais.
Donc on est dans la thérapie cognitivo-comportemental que vous nous évoquiez.
Tout à fait. Et on peut même donner des recommandations au médecin de travail. Donc, lui, étant donné son chronotype, peut-être il ne faut pas qu'il travaille du matin ou après, ça arrive ou pas.
Ma question suivante et les pathologies que j'aimerais aborder, ce sont les parasomnies. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, les parasomnies, c'est un événement qui survient pendant le sommeil. Étonnant, différent, qui est les parasomnies, c'est le somnambulisme, le terreur nocturne ou les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Le somnambulisme et les terreurs nocturnes, c'est en début de nuit, c'est en sommeil lent profond. Donc notre cerveau est en sommeil lent profond et les muscles s'activent, donc on va déambuler.
C'est-à-dire que, excusez-moi, le somnambule dort.
Oui. Il est en sommeil.
Voilà,
ouais.
On dit souvent là, parce qu'on a toujours dit que c'était les femmes. Autant de femmes que l'homme. Non, mais au 19e siècle, c'était les femmes. C'est comme l'hystérie, c'était les femmes, pas les hommes. Donc, il y a autant de femmes. Donc, il dort. Pour lui, il dort. Il a passé sa nuit dans son lit. Ouais. Mais, en fait, il se lève, marche, déambule dans la maison, et on voit son frère, sa soeur, son cousin marcher, aller ouvrir le frigidaire, boire un coup. Et pourtant, il dort. Ça, c'est important. Hein.
Tout à fait. Voilà. Donc, et les terreurs nocturnes, c'est la même chose. Il dort. C'est pour ça que les parents ont beaucoup de mal à...
Donc là, ils sont effrayés. C'est des enfants, non ? Il peut y avoir des adultes.
C'est souvent des enfants. Les terreurs nocturnes, c'est souvent des enfants. Ils sont effrayés, ils transpirent, ils voient des monstres. Et on a beaucoup de mal à les remettre à dormir. Mais ils dorment déjà. Donc
Oui, c'est ça. Les gens dorment alors qu'ils souffrent. Oui.
Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les éveils confusionnels. Les éveils confusionnels, c'est vous réveillez, vous ne savez pas où vous êtes. Et il n'y a pas de déambulation comme le somnambulisme. Et donc, ces trois éléments, le terreur nocturne, somnambulisme, éveil confusionnel, c'est des parasomnies du sommeil lent profond, donc des débuts de nuit. Donc, il y a un mythe qui dit qu'il ne faut jamais réveiller les somnambules.
Oui.
Si, on peut les réveiller, mais ils dorment. Donc, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle pour eux, mais on peut les réveiller. Idéalement, on les raccompagne au lit.
Ils suivent, en principe, ils suivent. On les allonge et puis on leur fait continuer la nuit dans leur lit, comme d'habitude.
Tout à fait.
Donc, il ne faut pas s'affoler. Quoi.
Et c'est extrêmement fréquent et normalement, ça passe avec l'âge.
Alors là, pour information, on a confondu somnambulisme et hypnose. Ça n'a rien à voir. Hein. L'état d'hypnose est un état qui n'est pas un état somnambulisme. Mais au 19e siècle, on faisait la confusion. Hein, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Et alors, l'autre question que je voulais vous poser, c'est existait-il des troubles liés au mouvement? Et quels sont-ils, quoi, hein?
Oui, les troubles, notamment le syndrome des jambes sans repos et les mouvements périodiques des jambes, c'est extrêmement fréquent, à différents encore, comme l'insomnie, différents degrés de sévérité. Et c'est ce qu'on appelle les impatiences. Donc, c'est une sensation d'agacement, d'énervement le soir au coucher, éveillé, hein, au coucher, qui fait qu'on doit bouger. Et dans 85% de cas, c'est associé à des mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil. Donc ça, c'est le conjoint qui dit « t'arrêtes pas de bouger les pieds ».
Oui, le diagnostic dans le sommeil, c'est le conjoint.
C'est le conjoint.
L'apnée du sommeil, écoutez, je suis inquiet parce qu'il a des pauses de sommeil. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est le conjoint
tout à fait.
Qui fait le diagnostic. Hein.
Tout à fait, c'est le conjoint. Et donc, si on a des mouvements périodiques des jambes isolés, on traite rarement. Bon, c'est un peu pénible pour le conjoint, mais si on a des impatiences, c'est une cause d'insomnie, d'endormissement. Donc, les impatiences, donc pareil, on va éliminer les facteurs déclencheurs. Parfois, on dit que le chocolat le déclenche. Parfois, on dit que le vin blanc.
Le vin blanc, non, c'est impossible.
Le déclenche. Donc, on va éliminer tous ces facteurs. On va regarder le fer, parce qu'on a vu qu'il y a un manque de fer. Donc, on va éliminer. Et après, on va donner des traitements, ce qui peut être ponctuel ou qui peut être au quotidien, comme un petit peu de dopamine ou un petit peu de gabapentine ou de pré-gabaline qui va soulager, qui va permettre de s'endormir.
Excusez-moi, ce sont des noms de molécules, hein, c'est pas des noms de... Parce que maintenant, on sert surtout de molécules. Hein, mon temps, on mettait des spécialités, maintenant, on sert de molécules. Et vous avez des résultats?
Ah oui, il y a de très bons résultats. Il y a de très bons résultats, mais c'est notamment les dopamines, on le donne de moins en moins, mais c'est des médicaments difficiles à manier.
Oui,
donc
pourquoi
il faut
on le donne
vraiment
de moins en moins?
Parce qu'il y a cet effet d'augmentation, c'est-à-dire que plus on prend, plus on a envie de prendre. Et à un moment donné, il y a des...
Plus on prend, plus on est obligé de monter la dose.
Oui, il y a des erreurs et donner le matin et du coup... ça devient un truc très complexe et il peut y avoir des troubles des impulsions. Mmh. Vous savez, des personnes qui n'arrivent pas à se freiner quand ils jouent.
Oui, des troubles psychologiques, etc. Mais écoutez, merci de vos éclaircissements hein, sur ces troubles du sommeil qui sont complexes. On pourrait faire 10 émissions sur ces troubles du sommeil, mais peut-être qu'on en fera d'autres, si vous êtes d'accord, notamment sur les impatiences ou d'autres choses, si notre présence vous convient. Ben, merci à vous, Béatrice Abril, et merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci.
Alors, j'ai l'habitude, comme vous savez, de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé, des livres que nous conseille le docteur Béatrice Abril sur le sommeil, un autre
livre. Il y a le professeur Pierre-Alexis Geoffroy qui a publié récemment un livre qui s'appelle « La nuit vous appartient », je ne l'ai pas lu, mais avec plein d'anecdotes, un peu histoire et un peu sur les pathologies, qui... selon j'ai entendu dire, est très bien. Donc,
mais
si
faut
ça vous intéresse,
alors, si
voilà,
dire,
tout à fait.
Voilà.
Pour
ceux qui dorment mal, eh ben, lisez, peut-être que vous dormirez mieux. En tout cas, un grand merci pour ce conseil. Je vous remercie beaucoup. Alors, je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel, ainsi que toute l'équipe de Radio Alliance Plus. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé en trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.